Manuel Valls attendu demain soir en Nouvelle-Calédonie. Le contexte dans lequel il arrive le ministre des Outre-mer sera le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Retour sur le plan de réforme du gouvernement adopté au Congrès jeudi dernier. Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement, était notre invité ce matin. 24 000 personnes sur la foire de Bourail, la 47e édition très attendue, a été un succès ce week-end. À l'étranger, les suites du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les pays de l'Union européenne font le forcing pour continuer d'exister dans ce dossier. Et puis manifestation monstre en Israël, 1 million de personnes se sont rassemblées pour demander la libération des derniers otages encore aux mains du Hamas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité sportive, nous la développerons dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François Bodin.
Et nous parlerons notamment de football avec le retour de la Ligue 1 ce week-end.
Eh oui, c'était la reprise pour le championnat de France de Ligue 1. La première journée, on retiendra que le Paris Saint-Germain y a été plan-plan hein, pour une reprise. Victoire 1-0 ce matin sur la pelouse de Nantes. On signalera également le premier but d'Olivier Giroud avec son nouveau maillot, celui du LOSC, le champion du monde 2018, qui a donc ouvert son compteur but. Et puis on retiendra également de cette première journée qu'il y a forcément un premier leader. Il s'agit de Monaco, à la différence de but, bien évidemment, les Monégasques qui se sont imposés 3-1 sur le Havre.
Et on parlera aussi MotoGP avec une nouvelle victoire de Marc Marquez.
Oui, c'était la 13e manche du championnat du monde ce week-end en Autriche après la pause estivale et Marc Marquez s'est une nouvelle fois imposé. Il a devancé sur la course principale un autre Espagnol, Fermín Aldeguer, qui signe son deuxième podium dans la catégorie reine. La troisième place pour Marco Bezzecchi qui termine donc troisième de ce Grand Prix d'Autriche. Marc Marquez qui domine très largement le classement du championnat du monde des pilotes.
On reviendra aussi sur les principaux résultats du week-end sportif en Calédonie avec notre invité Bruno Dumay. Nous parlerons du prochain marathon international de Nouméa. Ce sera le 31 août. Il sera dans les studios pour nous parler de cette édition sur lesquelles les inscriptions sont déjà ouvertes. Le magazine des sports est donc à retrouver dès la fin de ce journal. Et avant de parler de l'arrivée de Manuel Valls en Calédonie, cet accident mortel de la circulation qui a eu lieu hier en fin d'après-midi à Bouyrou. Une voiture a fait une sortie de route et la passagère âgée de 21 ans a été tuée. Depuis le début de l'année, 23 Calédoniens sont morts dans des accidents de la circulation. C'est donc demain soir que Manuel Valls arrive en Nouvelle-Calédonie pour son 4e déplacement depuis sa nomination au ministère des Outre-mer. On ne connaît pour l'instant que quelques éléments de son programme avec des entretiens bilatéraux. Le mercredi 20 août dans l'après-midi, l'installation du comité de rédaction dans la matinée du jeudi 21 août et de nouvelles rencontres le samedi après-midi. Au cours de cette visite, le ministre des Outre-mer veut rencontrer toutes les délégations politiques. Il veut aussi aller à la rencontre des Calédoniens, du Sénat coutumier, des maires, des forces économiques et sociales ainsi que des personnels de santé. Dans un entretien aux Parisiens, Manuel Valls répète qu'il se rend en Nouvelle-Calédonie pour expliquer, préciser, compléter, convaincre autant que nécessaire. Il réaffirme qu'il ne veut pas passer en force, mais qu'il n'y a pas d'alternative crédible à Bougival. L'accord de Bougival doit se mettre en œuvre et il va se mettre en œuvre, déclare le ministre des Outre-mer. Sans cela, prévient-il, c'est tout l'édifice politique, économique et social de la Nouvelle-Calédonie qui s'effondrerait. Manuel Valls a dit vouloir convaincre le FLNKS de s'inscrire dans l'accord lors de leur réunion bilatérale. Il affirme qu'il est possible d'enrichir l'accord de Bougival et d'y apporter des précisions, mais que son équilibre général ne peut pas être remis en cause. La prochaine visite de Manuel Valls en Calédonie et le contexte dans lequel il arrive est au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve tout de suite.
La porte est étroite, mais Manuel Valls va essayer de s'y faufiler. Tout l'enjeu de son 4e déplacement en Nouvelle-Calédonie, c'est de sauver l'accord de Bougival. Mais au vu des circonstances, ce n'est pas gagné. Il faut sauver Bougival parce qu'après l'échec de Deva, le ministre d'État, ministre des Outre-mer, ne peut pas se permettre un nouveau revers. Il faut aussi sauver Bougival parce que pour l'instant, nous n'avons rien d'autre sous la main. Comme il l'écrit lui-même, il n'y a pas d'alternative. Auparavant, Manuel Valls se disait un accord ou le chaos. Il a adapté sa formule pour affirmer désormais que sans Bougival, c'est le statu quo, la fuite en avant, l'impasse ou la confrontation. En clair, autant de solutions qui ne sortiraient pas la Nouvelle-Calédonie de l'abîme dans lequel elle continue de s'enfoncer depuis 15 mois et le déchaînement des violences insurrectionnelles. Mais surtout, il faut sauver Bougival parce qu'une majorité des groupes politiques qui l'ont signé le soutiennent et assument leur signature et parce qu'une large part de leur électorat respectif semble le soutenir dans l'attente de son approbation par référendum en février 2026. Mais si l'on appliquait en Nouvelle-Calédonie la loi de la majorité, ça se saurait, et l'État n'en serait pas là si, dès décembre 2021, il avait pris acte du résultat des 3 référendums. Et nous n'en serions pas là, si le trois fois non à l'indépendance avait été immédiatement traduit dans les faits par la recherche d'un statut au sein de la France. À trop vouloir tergiverser, à trop vouloir prendre en compte les revendications d'une minorité, à trop laisser s'installer un rapport de force, on en est arrivé à l'impasse à laquelle nous sommes confrontés. Parce qu'encore une fois, le rejet par le FLNKS de l'accord de Bougival rend très étroite la marge de manœuvre du ministre des Outre-mer. Même si c'est un FLNKS atrophié et privé de deux de ses principales composantes, que sont le PALIKA et l'UPM, même si c'est un FLNKS qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis que la CCAT en a pris les commandes, même si c'est un FLNKS privé de réelle représentativité, mais il va être difficile de contourner ce nouveau FLNKS qui a déjà repris le vocabulaire de la CCAT en parlant de passage en force ou en affirmant que le corps électoral reste une ligne rouge. Je ne tomberai pas dans le piège des mots qui blessent et dans la confrontation, a immédiatement répondu Manuel Valls, qui affirme qu'il ne cédera pas à la menace de la violence et du blocage. On a envie de dire que c'est la seule voie qu'il puisse emprunter, mais ce n'est pas la plus facile. C'est bien de dire que sa porte reste ouverte, mais pense-t-il vraiment qu'il est possible de comprendre les raisons peu explicites du choix incompréhensible du nouveau FLNKS? C'est bien d'assurer que le dialogue est la seule issue, mais croit-il véritablement pouvoir établir le dialogue avec un mouvement radicalisé qui ne fait que s'enfermer dans une logique idéologique n'offrant aucune issue, si ce n'est celle justement de la confrontation? Manuel Valls veut y croire et il maintient l'agenda de la mise en œuvre de Bougival avec l'installation du comité de rédaction auquel le FLNKS version CCAT ne veut pas participer. Il se félicite du dépôt d'une proposition de loi visant à reporter les élections provinciales en juin 2026 alors que le nouveau FLNKS veut le maintien des provinciales en novembre 2025. Mais s'il veut vraiment sauver Bougival, il faudra qu'il soit prêt au rapport de force et que le moment venu, sa main ne tremble pas. C'est là que l'on verra si sa détermination reste intacte, malgré l'étroitesse du chemin.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet, à réécouter aussi juste après le flash de 16h cet après-midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la question du jour. Avec l'installation cette semaine du comité de rédaction et le dépôt d'une proposition de loi pour reporter les provinciales en juin 2026, pensez-vous que l'agenda de Bougival va effectivement être respecté? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h39, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie. Et nous reviendrons notamment sur le plan du gouvernement adopté au Congrès la semaine dernière. Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement, était ce matin notre invité.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Quand on emprunte 120 milliards à l'État, c'est bien que la situation est dramatique, déclare Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement qui était notre invité du matin à 7h30. Pour autant, il estime que la situation est loin d'être désespérée, mais il faut faire des réformes, notamment pour bénéficier de l'aide de l'État. Et c'est précisément l'objectif du plan des réformes budgétaires, sociales et fiscales visant à rétablir les comptes, l'équilibre des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, qui a été adopté de justesse vendredi par le Congrès.
C'est un plan qui permet surtout de débloquer la seconde tranche du prêt accordé par l'État et qui nous permet à la fois aux collectivités de continuer à pouvoir passer des marchés publics, qu'on puisse continuer à avoir un financement du dispositif de maintien dans l'emploi et de retour vers l'emploi et des différents dispositifs sociaux. On est sur un plan surtout où on a voulu pas augmenter la pression fiscale. Je crois que ça n'a pas assez été dit pendant cette séance. On a été dans une logique de non-augmentation de la pression fiscale pour les Calédoniens puisque les Calédoniens aujourd'hui sont dans une crise économique, une crise de pouvoir d'achat. Et donc, on ne voulait pas alourdir cette partie-là. Donc on a souhaité à la fois prendre des mesures de relance économique, de relance par l'investissement avec des grands chantiers, de soutien avec une baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit être accompagnée sur plusieurs années, et surtout une logique d'économie à la fois dans l'administration calédonienne, puisqu'on a un certain nombre de directions ou d'établissements qui doivent être fusionnés, qui doivent être rationalisés, et également dans le système de la santé où aujourd'hui on ne peut pas continuer comme avant.
Ce plan prévoit 20 milliards d'économies d'ici 2028, mais il lui est reproché de diminuer les aides sociales, notamment dans le domaine du logement ou de la santé. Ce sont des efforts indispensables, affirme Christopher Gigès.
Si on ne fait rien, il n'y aura plus d'aide au logement, il n'y aura plus de RUAM, il n'y aura plus d'allocation familiale, il n'y aura plus tout ça. Puisque l'État a été très clair et l'État a montré que quand on n'était pas en capacité de faire les réformes, il ne payait pas derrière. Quand nous n'avons pas fait la réforme de la TGC, ils ne nous ont pas versé les 9 milliards. Quand on n'a pas suivi les recommandations sur le pacte nickel, les 20 milliards qui devaient être mis sur la filière nickel, ils ne les ont pas versés non plus. Et on a eu une usine du Nord qui a fermé, une usine du Sud qui est en grande difficulté. Et là, c'est pareil. On a 20 milliards qui doivent être versés par l'État sur la seconde tranche. Et si ces 20 milliards ne sont pas versés, il n'y aura plus de RUAM, il n'y aura plus d'aide au logement, il n'y aura plus tout ça. Donc, on doit faire des efforts sur un certain nombre de choses qu'on assume. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de venir devant vous et vous dire on va raser gratis, on va augmenter l'aide au logement, on va augmenter les aides sociales. Mais aujourd'hui, on est en responsabilité. On est dans un gouvernement en responsabilité, d'ailleurs, qui a voté ce plan à l'unanimité et qui aujourd'hui essaye de relever la Nouvelle-Calédonie. C'est pas facile, mais aujourd'hui, il y a des choses positives qui avancent.
Jeudi dernier, le débat a été houleux dans l'hémicycle du boulevard Vauban. L'opposition a parlé de braquage social ou d'attaque contre les plus défavorisés. Une offensive qui n'a pas surpris le porte-parole du gouvernement.
Non, parce que c'est venu de Philippe Gomès en particulier. Je crois que Philippe Gomès a 30 années de démagogie derrière lui, donc je crois qu'on n'était pas du tout surpris. Philippe Gomès nous a expliqué qu'il fallait lutter contre le pacte nickel et surtout pas répondre aux dictats de l'État, qu'il fallait lutter contre la réforme de la TGC parce que nous allions imposer à l'État ce que nous voulions en Nouvelle-Calédonie. Le résultat des courses, c'est qu'on a des usines qui ferment et pas de 9 milliards dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que Philippe Gomès a été un des fossoyeurs de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, si on en est là dans la situation financière de la Nouvelle-Calédonie hors émeute, il porte une part de responsabilité qui est très importante. Donc je crois qu'il y en a surtout qui sont en responsabilité, il y en a qui sont en démagogie.
Lors de cette interview, Christopher Gigès a aussi été interrogé sur la prochaine visite de Manuel Valls et il attend deux choses du déplacement du ministre des Outre-mer.
La première chose politiquement, c'est qu'il tienne le coup, enfin qu'il tienne ses engagements et qu'il tienne la ligne de l'accord de Bougival qui permet de donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Je vois qu'il y en a d'un côté qui crie Kanaki, Kanaki, Kanaki et qui parle pas du tout du coût de la vie, du pouvoir d'achat, de comment on donne un travail à la population. Et donc il faut que Manuel Valls, vraiment, c'est ce qu'il est en train de faire. Ses derniers communiqués vont dans ce sens, qui permettent de donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Et sur la partie économique, l'accord de Bougival est une très bonne chose, mais la partie économique est un peu light sur les différents mesures et qu'on puisse lancer la partie pacte économique pour donner aussi de la visibilité économique sur des nouvelles filières, sur le nickel, sur l'énergie et que la Nouvelle-Calédonie puisse enfin avancer.
Une interview de Christopher Gigès qui est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet. 24 000 personnes ont foulé le champ de foire de Téné ce week-end. Une très belle affluence pour la 47e édition de la foire de Bourail qui faisait son retour après un an d'absence. Beaucoup de monde donc, malgré des conditions météo pluvieuses, notamment vendredi. Et aussi beaucoup de satisfaction pour le président du comité d'organisation, Livaï Roy.
Un bilan très positif, très heureux parce qu'on a pu rassembler toutes les populations, notamment je vois tous mes jeunes, notamment les jeunes de la brousse et de la ville qui se rencontrent sur quad et sur chevaux. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle parce que ça a été compliqué de la faire. Je suis satisfait, on est à plus de 20 000 visiteurs. On a équilibré avec de la pluie, avec de la boue, mais en tout cas le public a été tenace et on voit que la Calédonie aime cette foire.
Il y a des annonces qui doivent être faites pour les mois à venir.
Ouais, je pense qu'on est... On est proche du retour du Calédonien Show à Nouméa.
Voilà, affaire à suivre. En tout cas, cette foire de Bourail, vous avez pu la vivre sur Radio Rythme Bleu grâce à nos équipes qui étaient présentes sur le site pendant 3 jours. Vous êtes aussi très nombreux à être passés sur le stand de Radio Rythme Bleu. Un grand merci pour votre soutien et pour vous tous vos témoignages de fidélité. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, l'UGPE et l'USTKE lancent un séminaire pour repenser l'école de demain. Pendant 2 mois, les deux organisations vont se réunir et organiser un temps d'échange à Ouvéa, Wailou et Nouméa. L'objectif est de dresser le bilan du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie qui va fêter ses 10 ans et proposer des réformes. Floranda Nirikani est membre de l'UGPE.
C'est aussi se poser, là dans le contexte politique, dans le contexte économique et social, c'est repenser l'école, c'est important. parce que du coup on parle de projet de société, nous on essaye d'attirer l'attention là sur notre école, c'est elle qui forme les citoyens et les citoyennes de demain, donc la société civile, il faut qu'elle prenne part en fait à ces espaces que nous on met en place, parce qu'on veut être au plus près de la population. Donc ce séminaire, il se passe sur ces deux mois-là. Des synthèses seront effectuées en fait au cours de ces séminaires, donc ils seront destinés en fait déjà à tous les participants, et elle sera destinée notamment aux élus des institutions en charge notamment de l'éducation et puis d'autres secteurs aussi, parce que l'éducation elle est transversale, pour poser justement ses intentions, mais ses espoirs et puis ses rêves aussi d'une école qui nous ressemble, parce qu'elle ne nous ressemble pas assez en ce moment.
La première rencontre aura lieu les 29 et 30 août à Gossana à Ouvéa. La restitution de ce séminaire est prévue, elle, début octobre. Et puis, en bref, cette information pratique pour les automobilistes. À la demande de la justice, la RP1 au Mont-d'Or sera fermée ce soir à partir de 19h jusqu'au mardi 19 août, 5h du matin. Une fermeture pour permettre aux enquêteurs de procéder à la reconstitution dans le cadre d'une enquête judiciaire liée aux émeutes. Seuls les services de secours seront autorisés à circuler sous escorte de la gendarmerie. Et puis, on notera que le président du gouvernement entame une tournée d'information dans les îles Loyauté à l'île des Pins. Il est à Lifou depuis ce matin 11h pour parler du futur déménagement d'Air Calédonie vers Tontouta et de la refonte du dispositif de continuité territoriale. Il veut informer les élus sur l'état d'avancement et les implications concrètes du déménagement d'Air Calédonie vers Tontouta, tant sur le plan logistique qu'organisationnel. Il veut aussi présenter les évolutions prévues dans le cadre de la refonte du dispositif de continuité territoriale et aussi sensibiliser aux enjeux économiques, sociaux et territoriaux dans ces deux projets majeurs pour favoriser une compréhension partagée et anticiper les impacts sur les populations concernées. 11h et bientôt 48 minutes, la dernière pause de ce journal avant d'attaquer le magazine des sports du lundi. On parlera de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Tu as moins de 30 ans? Tu veux trouver un emploi ou lancer ton projet en Nouvelle-Calédonie? Rejoins le programme de parrainage de talents calédoniens. Un chef d'entreprise t'accompagne, tu bénéficies d'un réseau, d'ateliers et d'un suivi personnalisé pour réussir ton parcours. Inscris-toi vite sur la page Facebook de Talents Calédoniens en remplissant le formulaire. Candidature ouverte jusqu'au 24 août. Inscris-toi vite et fais décoller ton avenir. Talents Calédoniens, un parrain pour demain.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et deux jours après la rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les pays européens font bloc derrière le président ukrainien. Les présidents russes et américains n'ont rien dévoilé de concret, mais ils ont parlé d'une rencontre constructive. Et la phase suivante devrait être une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les pays de l'Union européenne font le forcing pour continuer d'exister dans ce dossier. Emmanuel Macron souhaite accompagner avec d'autres dirigeants européens Volodymyr Zelensky, qui doit rencontrer à Washington le président américain avant une éventuelle rencontre tripartite. Le chef de l'État français compte à cette occasion marteler trois objectifs.
Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix. Le deuxième, de pouvoir ici rappeler qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. La troisième chose, c'est de faire le lien entre toute question territoriale et les garanties de sécurité.
Et s'il a salué des avancées sur le dossier, Emmanuel Macron reste circonspect sur la volonté de Vladimir Poutine de mettre un terme au conflit.
Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix? Oui. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé.
Et la question territoriale reste le cœur de ce dossier. Vladimir Poutine souhaite que l'Ukraine abandonne les régions de Donetsk et de Lugansk où l'armée est russe est majoritaire. En échange de quoi, il s'engage à stabiliser le front et arrêter les offensives russes autour de Kherson et de Zaporijja. L'autre grand titre de l'actualité à l'étranger, c'est cette mobilisation monstre en Israël. Plus d'un million de personnes, dont 500 000 sur la place des otages à Tel Aviv, a manifesté pour réclamer la libération des derniers otages retenus par le Hamas. Le président israélien Herzog a pris la parole notamment pour fustiger la communauté internationale, dont il regrette le manque d'engagement sur le sujet.
Depuis 681 jours, nous les voulons de retour chez eux, le plus tôt possible. Le monde devrait les vouloir de retour chez eux dès que possible. Arrêtez d'être une bande d'hypocrites. Insistez, parce que quand vous savez comment insister, vous insistez. Insistez et dites au Hamas, pas d'accord, rien, tant qu'ils ne seront pas libérés. Et je veux dire à nos frères et sœurs partout dans le monde, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Nous voulons que les otages rentrent à la maison. Ils sont la question la plus importante au monde et nous voulons les voir revenir dès que possible. Merci beaucoup.
Yitzhak Herzog, le président israélien qui prend rarement la parole. De son côté, le premier ministre israélien réaffirme sa stratégie de poursuivre l'offensive à Gaza. Benjamin Netanyahou souhaite que l'armée prenne le contrôle de Gazaville, considéré comme le dernier bastion du Hamas. L'actualité en métropole avec des températures qui restent élevées par endroits, mais on ne parle plus de canicule. 25 départements restent toutefois en vigilance orange. Dans l'Aude, les pompiers sont aussi vigilants autour de la zone touchée par l'incendie du siècle la semaine dernière qui a ravagé 16 000 hectares. La reprise du vent les contraint à rester déployés en nombre pour éviter toute reprise des flammes. À Toulouse, l'inquiétude des habitants du quartier de Bellefontaine. Une fusillade a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. La nuit dernière pour nous, une enquête a été ouverte. Deux jours plus tôt, un autre homme a été blessé à l'arme blanche sans que l'on sache si les deux affaires sont liées. Mais les habitants sont inquiets. Le reportage de Marco Bongrand.
Il pourrait faire bon vivre dans ce quartier en périphérie de Toulouse, orné de parcs et de verdure. Mais cette maman qui souhaite rester anonyme n'espère qu'une chose, déménager. Cette nuit, les balles ont touché les volets de son appartement.
Vers 2h, 3h du matin, on a entendu des balles. Il y avait même dans le mur où j'habite là, ils ont tiré. Mais vous voyez, si j'étais dans le couloir et la balle était directement, c'est une catastrophe. Franchement, je suis vraiment inquiète là, je suis choquée quoi. Et c'est pas la première fois qu'il y aura ces choses-là dans le quartier. J'en ai marre. On a peur, franchement.
Cette nouvelle fusillade renforce le climat d'insécurité dans le quartier. Un autre habitant souhaitant également rester anonyme explique que l'environnement s'est dégradé à tel point qu'il envisage de faire partir sa mère.
Avant, c'était bien, mais c'est plus pareil maintenant du tout.
On est en sécurité, clairement.
Il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas de... Tout le monde se mélangeait avec tout le monde se prenait par la tête. Mais maintenant, pour un regard, on peut se faire tirer dessus. Il faut le plus vite possible faire partir la maman d'ici, et c'est le plus important.
Ce quartier est classé zone de sécurité prioritaire depuis une dizaine d'années. Toulouse, Margot Bongrand, Europe 1.